en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La séance de l'Académie des sciences morales et politiques du lundi 22 octobre 2012 revêtait un caractère un peu spécial puisque deux académiciens, Yvon Gattaz et Bertrand Collomb, ont fait ensemble le bilan des entretiens de l'Académie qui s'étaient tenus le matin même à l'Institut de France sur le thème « L'industrie manufacturière en France ». Vous entendrez donc dans cette retransmission la synthèse chiffrée donnée par Yvon Gattaz et la synthèse de chacune des interventions de la matinée proposée par Bertrand Collomb. Précisons que les personnalités invitées ce matin-là étaient Arnaud Montebourg, Pierre Gattaz, Louis Gallois, Anne Lauvergeon, Xavier Fontanet, Christian Saint-Étienne et Jean-Louis Beffa, entrés grâce à Canal Académie dans la salle des séances.
Je rappelle qu'il y avait quand même quelques personnalités de premier plan, n'est-ce pas, ce matin, puisque nous avions la chance d'avoir successivement Arnaud Montebourg, ensuite Pierre Gattaz, connu, Louis Gallois, qui était un peu gêné à cause de son rapport qui devait sortir le 15 et dont il devait faire le compte-rendu précis lorsque nous étions mis d'accord en juillet et qui a été retardé par le gouvernement au 5 novembre pour les raisons que vous savez, et qui était donc condamné à une sorte de silence qui était tout à fait gênant pour lui. Il s'en est très, très bien tiré. Bertrand Collomb va vous expliquer ça tout à l'heure. Ensuite, nous avions Madame Lauvergeon, Anne Lauvergeon, ex-présidente d'Areva, qui a parlé avec sa tonicité habituelle, sans détour. Ensuite, nous avions Xavier Fontanet, qui a fait un plaidoyer vibrant pour l'entreprise et l'entrepreneur, en dénonçant ce qui se passait contre l'entreprise dans ce pays. Ensuite, Christian Saint-Étienne, bien connu de notre académie, puisque nous lui avons décerné plusieurs prix, qui est professeur au CNAM. Il a été titularisé grâce à l'accord, d'ailleurs, de l'Académie des sciences morales et politiques, je vous le rappelle. Et il viendra bientôt pour recevoir son prix sur son dernier ouvrage, L'incohérence française. Il a été également excellent. Et puis Jean-Louis Beffa, qui concluait, et qui, je vous le rappelle, a des positions fortes également, qu'il avait exprimé dans son livre « La France doit choisir ». Je demandais à M. Bertrand Collomb, qui a, tout le monde le sait chez nous, un excellent esprit d'analyse et de synthèse, de faire un peu le compte-rendu, de tirer la substantifique moelle de ce qui a été dit ce matin par ces différents orateurs. Si vous le permettez, cher Bertrand, je donnerai quelques mots des statistiques sur l'industrie que j'ai énoncé ce matin dans ma petite allocution liminaire pour rappeler, n'est-ce pas, que l'industrie représente 16% du PIB européen, ce qui est faible, et que tout le monde voudrait que ça remonte, c'est ce qu'a dit Antonio Tajani, n'est-ce pas, le commissaire européen à l'industrie, voudrait que ce taux remonte à 20% dans les années qui viennent. Est-ce un vœu pieux? Est-ce réalisable? Enfin, on peut dire qu'actuellement, dans ces 16% européens, la France a 18%, mais l'Allemagne a 24%, une différence tout à fait significative. Je rappellerai également, en titre de statistique, que la France vient d'être éliminée du top 20 du World Economic Forum de Davos et que nous sommes passés de 2011 à 2012, de la 18e à la 21e place. Nous sommes exclus du top 20. À partir de cette année, ce qui est quand même grave à mon avis. En termes d'emploi, ce qui est grave, c'est qu'on a perdu 1 900 000 emplois, soit 36% de nos effectifs industriels entre 1980 et 2010, c'est-à-dire en 30 ans. C'est assez dramatique. Assez dramatique. Alors il faudrait remonter la pente, bien entendu. Alors, bien sûr, nous sommes maintenant le quatrième employeur industriel européen. Et nous avons 3 250 000 emplois industriels. Bien entendu, l'Allemagne en tête de l'Europe avec 7 560 000, suivi de l'Italie, mais oui, avec 4 790 000, et même la Pologne, qui a 3 500 000, un petit peu, 250 000 de plus que tout. C'est comme ça. Donc, vous voyez, la déchéance industrielle est inéluctable et forte, et nous la considérons, nous, industriels, comme dramatique. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Je rappellerai qu'ici même, dans cette enceinte, il y a 10 ans, et la plupart des confrères s'en souviennent bien, on a eu un débat sur la société post-industrielle, un beau nom de l'époque, très intello, et un grand intello nous avait expliqué que les industriels étaient dépassés, que c'était fini, que c'était terminé, et que la société industrielle ne conserverait que l'amont et l'aval, c'est-à-dire la conception digne de nous, et les services, la vente digne de nous, mais pas la production indigne de nous et bonne pour la Chine. L'expression est employée ici même, bonne pour la Chine. Dramatique, dramatique, quand on regarde ce qui s'est passé depuis. Alors, savoir pourquoi cette perte d'emploi industriel, alors entre la compétitivité coût et hors coût, c'est une définition que j'aime pas beaucoup à titre personnel. Moi, je trouve que, j'ai appris ça dans les livres comme tout le monde, compétitivité coût et hors coût. Moi, j'aime beaucoup mieux la compétitivité entreprise, due à l'entreprise, à ses performances, à sa stratégie, et hors entreprise, c'est l'écosystème qui n'est pas que les prix. Et l'écosystème, c'est les prix, c'est les charges, mais c'est également les contraintes qui sont innombrables dans tous les domaines. Donc j'aime mieux moi, la segmentation entreprise, responsable d'entreprise, et hors écosystème, j'aime beaucoup mieux ça, mais je ne suis pas suivi, malheureusement. Je serai réhabilité après ma mort, bien entendu. Et quant aux coûts, les coûts horaires, n'est-ce pas, c'est en France 34,60 euros l'heure industrielle contre 31,20 en Allemagne. Incontesté, après, il y a eu beaucoup de contestations, aujourd'hui, il n'y en a plus. 34,60 comme 31,20, ça semble définitivement admis par tous. Bien sûr, quand on sait que la sécurité sociale est 39% de charges sur nos salaires en France et que c'est 19% en Allemagne, on comprend. Voilà. J'en termine sur des statistiques un petit peu arides, vous me pardonnerez. On va passer à des sujets plus intéressants avec Bertrand Collomb. En nombre, il faut quand même savoir qu'il y a 157 000 TPE industriels, TPE entre 1 et 50 salariés, n'est-ce pas ? Ce qui représente peu de choses, dans le fond. Comme il y a beaucoup de TPE, il y en a 2,5 millions en France. Hein. Donc ça ne représente que 7%. Chez les PME qui sont, vous le savez, 160 000, il y a 24 600 PME industrielles, ce qui n'est pas terrible non plus, ce qui ne fait que 19%. Chez nos ETI, pardon pour le nom, il y a 1515 ETI industriels sur 4600 que nous sommes, et ça représente quand même quelque chose de significatif, ça représente quand même 33%, nous sommes en tête du classement, nous sommes la catégorie la plus industrielle de France, les ETI, de 250 à 5000 salariés. Et puis les grandes entreprises, les GE, qui ne sont, comme vous le savez, que 217 en France, elles ont 64 entreprises industrielles sur 217, soit 29%. Le classement est le suivant. En tête, ETI, 33%. Deuxièmement, les GE, 29%. Troisièmement, les PME, dont on parle tant, on parle toujours des PME en France. Elles ne sont pas toujours les premières, mais on parle que d'elles. 19%. Et les TPE, ce qui est normal, simplement 7%. Voilà. J'en ai terminé avec ces statistiques dont je vous demande de pardonner un peu l'aridité. On peut dire un dernier mot sur les marges qui sont tombées à 28,6%, le plus bas niveau depuis 1985, alors qu'il est, cette marge est de 34,4% outre-Rhin. Et encore là, 28,6% contre 34,4%. On voit que nous sommes à la traîne une fois de plus. Dernier petit chiffre qui peut vous intéresser, qui est un peu amusant, le nombre de robots. Mais les robots ont été classés par l'administration sans nous expliquer bien ce que c'était que les robots. Les petits robots, les moyens robots et les gros robots. Je pense que ce sont les gros robots, là, c'est-à-dire ceux de l'industrie automobile, par exemple. Alors, c'est un indicateur comme un autre, mais qui est significatif. La France possède ces gros robots 34 495. L'Italie, 2 fois plus, 62 378. L'Allemagne, 4 fois plus, 148 000. Et le Japon, 8 fois plus, 285 000. Alors, c'est significatif du taux d'automatisation et de modernisation de l'industrie. Voilà. Je vous demande pardon d'avoir été un tout petit peu long sur ces statistiques, mais qui posent un petit peu le décor pour qu'on comprenne mieux ce colloque de ce matin qui était destiné à montrer la situation exacte de cette fameuse industrie manufacturière en France. Je dis industrie manufacturière parce que l'industrie en général, l'industrie manufacturière, c'est l'industrie totale moins l'énergie et moins l'agroalimentaire, manufacturière, production. Et cette industrie manufacturière est dans une très grave situation que personne n'a voulu reconnaître, considérant que c'était secondaire. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est vital. On va voir pourquoi, d'ailleurs, avec Bertrand Collomb, ça a été bien expliqué ce matin par des orateurs prestigieux. Vous allez voir que c'est une situation d'une incroyable gravité et pour laquelle il faudra bien que le gouvernement ou les gouvernements qui viennent s'en préoccupent. Nous avons eu ce matin, d'ailleurs, quelques assurances de la part de M. de Bourbourg qui ne demande pas de fougue. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout du chemin ? On l'espère. Pardon d'avoir été un peu long. Je cède la parole donc à Bertrand Collomb qui va faire une synthèse de ce matin.
Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, nous avons eu une matinée très intéressante avec une affiche extrêmement brillante, un peu trop fournie qui fait qu'on a été en course de vitesse pendant toute la matinée et on n'a pas eu beaucoup de discussions, mais je pense qu'il y a eu énormément de matière. Alors, je ne vais pas essayer de résumer ce qui a été dit, d'autant plus que plusieurs d'entre vous étaient là. Ça serait un exercice un peu trop difficile parce que je n'ai eu qu'une heure pour essayer de préparer cet exposé. Pas tout à fait aucun. Pierre Gattaz, excepté aucun, nous avait donné un papier à l'avance. Et c'est donc un peu à la volée que je vous fais cette présentation. Et comme plusieurs d'entre vous étaient là, je risquerais d'avoir des observations critiques si j'essayais trop de coller à ce qui a été dit. Mais je vais vous faire quand même une synthèse et puis vous ferai part un peu de chemin faisant de certaines de mes réactions. Alors je vais quand même faire un sort particulier à l'intervention d'Arnaud Montebourg. D'abord parce qu'il est ministre et que nous avons toujours la révérence qu'on doit aux représentants du gouvernement. Et puis ensuite parce qu'il est un ministre original. Et parce que la façon dont il pose le problème de la désindustrialisation de la France est intéressante et vaut la peine qu'on essaye de la reprendre. En fait, disons qu'il en fait une question de souveraineté. C'est pas d'abord une question économique, c'est une question de souveraineté. Selon ces termes, le pays qui ne fabrique plus et qui consomme les produits fabriqués par d'autres perd sa souveraineté. Et il se voit en particulier imposer des normes de vie générées par d'autres. Et c'est vrai qu'il est facile de prendre l'exemple de Google ou de tous les produits d'Internet pour voir que avec les produits, avec l'iPad et l'iPhone, arrive un certain nombre de normes et d'habitudes de vie qui, finalement, sont générées par les gens qui fabriquent ces produits. Et il insiste donc, assez logiquement, sur le rôle du politique. Et pour lui, le politique peut redresser l'économie. Et il en prend comme exemple ce qui s'est passé aux États-Unis, pays libéral pourtant, après la Grande Dépression. Et c'est vrai que les politiques libérales aux États-Unis n'avaient servi qu'à enfoncer davantage le pays dans la crise. Et c'est le New Deal avec le National Economic Recovery Act qui a permis d'amorcer le redressement. Redressement qui a été poursuivi pendant la guerre. Et la guerre a été un moment de dirigisme puisque l'essentiel du financement des efforts de guerre venait évidemment de l'État. Alors, ensuite, Arnaud de Montebourg décrit ce qui va être notre politique, donc la politique du gouvernement auquel il appartient. Cette politique, c'est de changer de modèle économique. Le modèle qu'il qualifie de ROE, Return on Equity, LBO, Leverage Buyout, c'est-à-dire en fait le modèle anglo-saxon libéral, dont il nous dit qu'il a été propagé par le Trésor depuis les années Bérégovoy, et c'est pas totalement faux. Mais disons que ce modèle sur lequel il y a eu consensus économique des élites françaises comme des élites mondiales d'ailleurs, ce modèle a montré ses limites, d'après lui, dans la crise de 2008, ça non plus c'est pas totalement faux, et doit donc être dépassé. Et d'ailleurs, dit-il, ce qui est encore partiellement juste, ce modèle n'a jamais été vraiment accepté par la société française. Alors le nouveau modèle doit être un modèle entrepreneurial, doit être un modèle innovant, et doit être un modèle patriotique. À cette occasion-là, il nous a cité une citation qu'il a, je pense à tort, attribuée à Jean Jaurès, car je crois qu'elle est attribuable à Romain Gary, d'après les recherches que j'ai faites entre 2 heures et 3 heures, qui dit que le nationalisme, c'est la haine des autres, et que le patriotisme, c'est l'estime de soi. Alors, il dit ensuite que, et là je crois qu'il a raison, qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, dans le fond, ne sont pas totalement confortables avec le modèle libéral dans toute sa brutalité et qui préfèrent le long terme au court terme, qui aimeraient associer leurs employés, leurs syndicats au sort de l'entreprise, qui respectent et intègrent les territoires et qui veulent innover, investir dans l'innovation. Et alors il dit, dans le fond, nous sommes, je suis le ministre de ces chefs d'entreprise-là. Alors, bien sûr, cette économie, il faut la financer. Là, on ne parle pas trop des marchés extérieurs, ou plutôt on en parlera tout à l'heure. Pour les financer, on va faire la Banque publique d'investissement. Cette Banque publique d'investissement, elle va avoir le souci d'être rentable, donc on ne veut pas faire des choses inefficaces, mais elle sera un investisseur plus patient et moins gourmand que les investisseurs anglo-saxons. Et puis, nous allons soutenir des projets. Donc, c'est un État qui veut soutenir des projets. Et il donne l'exemple d'un jeune polytechnicien, semble-t-il, qui a un projet de révolutionner l'économie ou l'ergonomie des data centers en faisant des choses beaucoup plus distribuées qui auraient moins de coûts énergétiques et de coûts de localisation, puisqu'il paraît que les data centers consomment 7% de l'énergie de notre pays. C'est simplement un exemple, mais qui veut dire que l'État, avec, selon Arnaud Montebourg, se propose de choisir des projets à soutenir, un peu comme l'État gaulliste ou pompidolien d'il y a quelques années, et à l'inverse de la doctrine européenne, puisque la doctrine européenne, c'était « we don't pick the winners and the losers », nous ne choisissons pas les gagnants et les perdants, c'est le marché qui doit choisir. Il veut également, et là un certain nombre de gens, y compris de chefs d'entreprise, seraient d'accord avec lui, et changer certaines des règles de l'Union européenne. En citant notre ami Fitoussi, qui dit qu'il faudrait faire des choix plutôt qu'appliquer des règles. Je dois reconnaître que personnellement, c'est un point sur lequel je suis sensible, car je pense que l'Union européenne, dont la seule réponse au problème qui se pose, c'est « nous appliquons les règles », puisque c'est un jour ce que le président Barroso m'avait dit quand je lui avais fait observer un certain nombre de problèmes qui se posaient, il dit « on peut rien faire qu'appliquer les règles ». C'est pas une bonne réponse politique. Alors, les règles auxquelles il fait allusion, c'est les aides d'État, puisque c'est vrai qu'au-dessus de 100 000 euros, ou 200 000 euros, je ne sais plus, un État doit demander l'autorisation de Bruxelles avant d'aider quoi que ce soit dans le secteur privé. C'est les règles d'environnement qu'il considère comme trop coûteuses, imposant à nos entreprises des contraintes qu'on n'impose pas aux entreprises des autres pays avec lesquels elles sont en concurrence. De la législation de la concurrence, qui ne prend pas assez en compte la bataille entre les firmes européennes et les firmes mondiales, et les règles sur la réciprocité commerciale, concept qui, il y a encore quelques années, était considéré comme du protectionnisme camouflé par Bruxelles, qui maintenant est accepté dans son principe, mais a du mal à se mettre en œuvre. Et là, je dois dire que sur ces quatre points, j'aurais tendance personnellement à être relativement d'accord avec lui. Alors enfin, sur la question de la compétitivité, qui est évidemment au cœur de notre débat. Il a salué Louis Gallois, qui d'ailleurs à ce moment-là n'était pas encore arrivé, mais est arrivé un petit peu plus tard, en disant qu'il fallait attendre ses propositions. Vous n'avez pas été sans remarquer, y compris dans le Figaro de ce matin, que d'abord il y a eu des fuites sur le rapport Gallois, et qu'immédiatement les ministres, voire le président, ont commencé à prendre leur distance, alors que jusqu'à il y a 8 jours, on nous disait « nous allons agir sur les bases du rapport Gallois ». Maintenant, les propositions du rapport Gallois semblent faire peur. Alors, ces propositions, Louis Gallois ne les a pas formulées, comme Yvon Gattaz vous l'a dit, mais Arnaud Montebourg, qui est probablement celui qui soutient le plus cette idée d'un choc de compétitivité, a par avance soutenu Louis Gallois, dont il a fait un éloge appuyé. Il nous dit que là-dessus, il faut regarder lucidement nos handicaps. Il n'aime pas parler du coût du travail, car il n'a pas envie de dire aux salariés français qu'ils sont trop payés. Et il ne pense pas qu'il soit trop payé. Mais les conditions de financement de la protection sociale. Il pense qu'il faut... Alors, il a esquivé le débat sur le refinancement de la protection sociale par d'autres sources, puisque on ne veut pas de la TVA, et plus récemment, on ne veut pas non plus de la CSG. Donc on ne sait pas très bien par quoi on pourra le financer. Il a esquivé cette question, mais en disant qu'il fallait effectivement trouver des modes de refinancement en ciblant l'aide sur les secteurs exposés. Un secteur exposé, c'est l'investissement productif industriel, généralement des niveaux de salaire de 1,6 à 3,5 fois le SMIC, Il ajoutait que aider les emplois les moins qualifiés, c'était ce qu'on avait fait depuis 10 ans et que ça n'avait pas donné des résultats extraordinaires. Ceci dit, si on ne l'avait pas fait, on ne sait pas très bien où on serait en termes de chômage. Donc c'est moins évident que ça. Et il a même dit en faisant payer le secteur abrité. Voilà. Ensuite, il a évoqué la réduction des dépenses d'État sur une question qui lui a été posée, mais en disant « on le fait ». Et sous-entendu, on le fait au maximum de ce qu'on peut. Tout en admettant, c'était intéressant de la part d'un ancien président de conseil général, que sur le plan des collectivités locales, il y avait peut-être pas mal de marge. Une question lui a été posée sur l'attractivité de la France. Et en filigrane, il y avait la question sur les mesures fiscales qui ont été prises, même si la question n'a pas été posée de façon frontale. Son discours, qui est celui du gouvernement, est que la France reste attractive. C'est vrai que les statistiques d'investissement étranger, pour l'instant, n'ont pas encore connu de chute très, très brutale. Mais il a fait surtout une restriction, puisqu'on lui disait comment va-t-on attirer les capitaux. Dans le fond, il y a des bons capitaux et des mauvais capitaux. Et oui, pour les capitaux, mais on risque de perdre le contrôle de nos technologies ou de nos entreprises, et donc de perdre de la souveraineté. Il a terminé en disant qu'il fallait une maîtrise patriotique de l'économie, tout en admettant qu'on n'échapperait pas à un débat difficile, sans dogmatisme, avec une contradiction macroéconomique qu'il a reconnue entre le court terme, réduire la dette et améliorer la compétitivité de l'entreprise, et le long terme, ou plutôt le court terme, qui est ne pas causer une récession excessive par les mesures d'assainissement que l'on prend, et le long terme, qui est la nécessité à la fois de réduire la dette et d'augmenter la compétitivité de l'entreprise. Voilà en gros l'exposé tel qu'il a été fait par Arnaud Montebourg. La salle a été très respectueuse, comme toujours quand il était un ministre, sauf quand il a dit que l'État avait fait ce qu'il devait faire en matière de réduction des dépenses, où là, il y a eu des mouvements divers, qui n'ont pas échappé d'ailleurs, mais allant jusqu'à la rigolade dans certains cas. Voilà, alors ça c'était l'intervention du ministre, sur laquelle j'ai été plus détaillé que sur le reste. Après l'intervention du ministre, finalement, le diagnostic des différents participants a été assez similaire. Il a heureusement été présenté avec des tons et des modalités assez différentes, ce qui fait que c'était pas monotone. On aurait pu craindre que ce soit la répétition de la même chose 4 ou 5 fois. Ça n'a pas été trop le cas. Bon, les chiffres de désindustrialisation, ils ont été mentionnés par Yvon Gattaz. Je ne vais pas y revenir. Je vais revenir sur ce qu'a dit Christian Saint-Étienne, qui a dit que quand on était un professeur, il fallait avoir le goût des formules, et que l'industrie, c'était ce qui faisait 80% des exportations. Jean-Louis Beffa a renforcé cela en disant que ce ne sont pas les services qui déterminent la balance commerciale, et que l'industrie faisait 80% de la recherche et de développement, et que donc il n'y avait pas d'innovation sans industrie. Et donc, Christian Saint-Étienne a conclu, pas d'industrie veut dire pas d'exportation et pas de recherche et développement. Ce qui était évidemment amené à dire, on ne peut pas ne pas avoir d'industrie. Il y a une idée qui est sortie fortement des différentes interventions, beaucoup plus fortement que ce à quoi je m'attendais, c'était l'idée que tout cela n'était pas arrivé par hasard, ni par simplement par une mécanique de renoncement. C'est qu'il y avait eu, et Yvon Gattaz y faisait allusion tout à l'heure, un courant d'idées en France qui pensait qu'on était entré dans une société post-industrielle, qu'il y avait une division du travail entre recherche, conception dans nos pays et fabrication, qui était bon pour la Chine, comme Yvon Gattaz le disait tout à l'heure. Que dans le fond, cette idée correspondait à l'idée des 35 heures. C'est plus la peine de travailler dans les usines, puisque la production n'est plus importante, et correspondait aussi à l'ambition écologique. Les usines, c'est sale. Quand on aura une France sans usine, on aura une France propre. Donc l'idée que c'est une stratégie volontaire de la France, même si elle n'a pas été explicitée sous cette forme-là, et que ce n'est pas par hasard. C'est peut-être un sujet de discussion que nous pourrons avoir pour savoir si la stratégie française qui a été menée par la France est une stratégie par défaut. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de stratégie et donc on a été amené là où nous sommes par un peu la pression des circonstances, ou s'il y a eu, dans un certain nombre d'élites françaises, cette idée qui a été dénoncée par plusieurs des intervenants, aussi bien Christian Saint-Étienne que Anne Louvergeon, Jean-Louis Beffa et d'autres. Alors que l'Allemagne, qui en 97-98 était dans une situation extrêmement difficile, après une réunification qui leur avait coûté énormément d'argent, mais aussi qui avait créé un boom dont les syndicats avaient profité pour faire monter les salaires de façon incroyable, et qui était en déficit commercial et en situation financière difficile, l'Allemagne, en 97-98, a décidé de mettre le paquet sur la compétitivité industrielle. Et évidemment, chacun des intervenants a dit, 10 ans ou 15 ans plus tard, on voit où on en est et on voit quelle était la stratégie gagnante. Alors, on a beaucoup donc parlé d'industrie, mais Pierre Gattaz nous a tout de même mis en garde contre une séparation excessive entre l'industrie et les services, en disant qu'il s'agit d'un combat commun. Et c'est vrai que je voudrais qu'on se rappelle de ce que Pascal Lamy, ici même, enfin à l'Académie, dans un autre entretien l'année dernière, disait. Quand on regarde la valeur d'un iPad, il y a effectivement un tout petit peu de valeur de fabrication, qui est d'ailleurs faite en Chine, mais il y a beaucoup plus de valeur qui est une valeur intellectuelle, qui est une valeur de service, de recherche, etc. Bon. Donc, je crois que c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. N'opposons pas industrie et services, et l'idée qu'on pourrait faire payer les services parce qu'ils sont abrités pour sauver l'industrie me paraît une idée, moi, qui est un peu dangereuse. Alors, à part ça, le diagnostic, dans ses modalités de détail, il est extrêmement partagé par tous les intervenants. C'est-à-dire, une chose qui me frappe, c'est que depuis l'élection de ce nouveau gouvernement, de cette nouvelle majorité, il n'y a finalement plus de débat sur le diagnostic. Il y a un débat sur l'importance relative des différents éléments du diagnostic et donc sur ce qu'il faut faire. Mais de façon surprenante, le débat qui était avant sur le diagnostic, maintenant, n'est plus sur le diagnostic. Alors, ce diagnostic a été très bien exposé par Louis Gallois, puisqu'il était privé de la possibilité de proposer des remèdes, puisque les remèdes seront exposés dans son rapport qui remet le 5 novembre. Donc, le diagnostic formulé par Louis Gallois, mais qui est aussi celui de Pierre Gattaz, qui est aussi celui de Christian Saint-Étienne, d'Anne Lauvergeon et de Jean-Louis Beffin, c'est l'industrie française n'a pas réussi, avec quelques très belles exceptions, sa montée en gamme, n'a pas assez investi dans sa productivité et est très exposée à la concurrence prix. L'exemple de l'automobile est évidemment le plus évident, puisque Audi peut vendre ses véhicules, ses voitures, 15% plus cher qu'une autre, et ils se vendent quand même, quand ni Citroën, ni Peugeot, ni Renault n'est capable de vendre ses véhicules 15% plus cher que la concurrence. Donc la France est prise en tenaille entre une Allemagne, une Europe du Nord, mais aussi, à ma grande surprise, plusieurs des intervenants ont mentionné l'Italie du Nord comme étant la zone qui est la plus compétitive industriellement actuellement. C'est corroboré par ces chiffres de robots qui ont extrêmement surprenants, qu'Yvon Gattaz vous a donné. Il y a 2 fois plus de robots en Italie qu'il y en a en France. Et alors, ces pays-là sont montés en gamme, ils ont aussi réduit leurs coûts. N'oublions pas que l'Allemagne a réduit ses coûts relatifs par rapport à la France, puis actuellement ne les a plus augmentés en valeur nominale depuis 10 ans, 12 ans, alors que nous les avons augmentés de 20%. Bon. Mais qui ont aussi soit monté en gamme, soit qui sont restés en haut de gamme. Donc, pris en tenaille entre ces pays-là, et puis les pays à bas coût, Chine, Corée, Europe de l'Est, et même, semble-t-il, l'Espagne. Il semble que l'Espagne, après les réformes assez draconiennes qu'elle est en train de faire actuellement, devient un concurrent qui est en train de dépasser la France en termes de compétitivité et en tout cas certainement en termes de résultats de la balance commerciale. Alors les résultats, ils sont connus. Les chiffres vous ont été donnés par Yvon Gattaz tout à l'heure. Les marges ont baissé beaucoup et nous avons un différentiel de 8 points par rapport à l'Allemagne et un différentiel de 10 points par rapport à la moyenne européenne. L'autofinancement des entreprises est passé de 85% à 64%. Et depuis 10 ans, l'investissement est plat. Alors, quand ensuite on rentre dans le détail du comment tout ceci s'est fait, là non plus, il n'y a pas de divergence et tout le monde dit un peu la même chose. Environnement fiscal peu favorable aux entreprises. Durée du travail, notamment sur la vie d'un employé, insuffisante. Manque de coopération entre acteurs, alors soit entre acteurs publics et acteurs privés, dans le domaine de la recherche et de l'industrie, ou dans le domaine de l'éducation et de l'industrie, soit coopération entre acteurs privés dans les relations entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Un des intervenants nous a dit, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai, que le fait que les patrons industriels allemands sont généralement venus du cœur même de l'entreprise les rend plus sensibles aux problèmes des fournisseurs et les amène à comprendre plus facilement qu'une entreprise a besoin de ses fournisseurs et ne peut pas les mettre en coupe réglée sans qu'à un moment ou un autre, ça lui retombe dessus. Un dialogue social fondé sur la méfiance, un système à la fois trop protecteur, mais qui entraîne des détournements qui finalement font que les gens ne sont pas protégés. C'est la fameuse dichotomie entre un CDI, un contrat à durée indéterminée, qui est toujours conçu comme un contrat à vie, même si ça ne l'est plus, et des missions d'intérim, des CDD ou des externalisations, qui créent un lien extrêmement ténu avec l'entreprise et qui finalement ne sont pas favorisent l'adaptation et la flexibilité, mais ne sont pas très très positifs pour l'entreprise. Et que même la formation continue, qui était pourtant une belle initiative française, on constate qu'au fur et à mesure que les montants ont augmenté, les durées de formation étaient de plus en plus courtes. Ce qui veut dire qu'on est dans de la formation d'adaptation et non pas dans de la formation qui augmente réellement l'employabilité des gens qui sont formés. Alors en même temps, Louis Gallois et quelques autres, notamment Anne Lauvergeon, nous ont dit on a des atouts. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu le paradoxe de la situation actuelle. On a d'abord des secteurs qui marchent bien. On a cité l'aéronautique, on a cité la pharmacie, on a cité certaines branches de l'agroalimentaire. Ensuite, on a des entreprises internationales françaises qui réussissent très bien dans tous les secteurs. Et c'est vrai que la France est, par rapport à sa taille, un des pays qui a le plus de leaders mondiaux dans le palmarès des 500 plus grandes entreprises mondiales. On a une situation géographique favorable. On a beaucoup de côtes. L'ennui, c'est que si on a des côtes avec des ports inefficaces, ça sert pas à grand-chose. On a de très beaux services publics, mais là aussi, les ports sont pas un exemple extraordinaire. Et nos très beaux services publics, ils sont très beaux quand ils sont pas en grève. Mais enfin, dans l'ensemble, quand même, on a des services publics qui fonctionnent relativement bien et des infrastructures qui sont favorables. Et enfin, on a un cadre de vie agréable. Et quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, je crois que c'est Pierre Gattaz, qui disait qu'il était sidéré par le nombre de start-up qui se localisaient dans le sud, dans la zone méditerranéenne, car finalement, pour des entreprises qu'on peut démarrer où on veut, c'est pas désagréable de les démarrer là où il y a du soleil, et là où il y a... Bon, c'est un peu le phénomène Silicon Valley ou Arizona en France. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, qui encore une fois a été à peu près le constat de tous nos intervenants, que faire ? Alors, Louis Gallois n'a pas abordé, comme je vous l'ai dit, le que faire, puisque c'est l'objet de son rapport. Il a quand même dit, il n'y a pas de fatalisme à avoir. Des pays, alors on a cité le Canada ou la Suède, je crois, ont réussi. Mais vous allez voir tout à l'heure que l'ensemble de ce qui est proposé ne ressemble pas beaucoup à ce qu'ont fait le Canada et la Suède. Alors, Christian Saint-Étienne a présenté ce qu'il faut faire en termes macroéconomiques. Alors ça, c'est un peu effrayant. Ce qu'il dit, dans le fond, c'est simple. Il y a 120 milliards d'euros de marge qui manquent aux entreprises. Donc, il faut basculer à l'intérieur du PIB français 120 milliards des ménages ou de l'État sur les entreprises. Alors, il y en a 50 milliards qu'on peut faire par transfert de charges et il y en a 50 milliards que les entreprises devraient faire par leur propre productivité. Puisque, en partie pour les raisons de rigidité dont nous avons parlé, il est clair que les entreprises françaises ne sont pas à l'optimum de la productivité. Je dois reconnaître que, dans mon expérience personnelle, même une entreprise comme Lafarge, qui est pourtant considérée comme une entreprise très productive, en France, on a toujours 10% de marge. Parce que c'est trop embêtant, si j'ose dire, de tirer les derniers 10%. Dans d'autres pays, il n'y a pas de problème. Mais en France, il faut vraiment se lever tôt le matin et s'accrocher. Et quand on commence à le faire, comme nous l'avons fait en fermant une usine de 250 employés, on déclenche le diable et son train, en particulier quand c'est proche de la circonscription de M. Montebourg. Bon, alors ce que Christian Saint-Étienne nous dit, c'est il faut que les entreprises réinvestissent dans la troisième révolution industrielle, notamment dans tout ce qui est communication, information. Et c'est vrai que j'ai toujours été frappé du fait, on parlait des robots tout à l'heure, mais que ça soit robot ou système informatique, il y a un décalage entre une entreprise française et les autres. Et il n'y a aucune raison. Nous sommes aussi forts, nous avons autant d'ingénieurs, etc. Je pense que la raison principale, c'est que tous ces systèmes supposent un changement d'organisation. Mais c'est vrai pour les robots, mais c'est vrai aussi pour la simple informatique. parce que quand on veut développer l'informatique, il faut remettre en cause l'organisation. Et remettre en cause l'organisation, ça passe toujours par des changements. Et dans notre pays, quand on change même, d'ailleurs, si on licencie personne, il faut quand même passer par les procédures en social, etc. Bon, ça, c'est un commentaire personnel. Ça n'a pas été dit par les participants. Mais alors, ce que nous dit aussi Christian Saint-Étienne, c'est qu'il faut construire un écosystème pour les entreprises. Et que ça, selon ses termes, c'est renverser ce qu'on a fait depuis 15 ans. Alors ça ne se fera pas en 5 minutes. Et c'est recréer une vision collective de ce qu'on veut faire. Alors ce terme de vision collective, on va le retrouver chez Pierre Gattaz, un chef d'entreprise, chef d'une entreprise mondiale, qui nous dit que la réussite dépend de 5 C. Le cap, et il est sur la ligne qu'il faut qu'il y ait un cap de l'économie française concerté entre l'État et les différents joueurs. On n'est donc pas du tout sur le libéralisme où le marché fait émerger ce cap spontanément. Le cap, la confiance, ça on comprend bien, la compétitivité, la convergence et la cohérence de ce qu'on fait. Et puisque Pierre Gattaz apparemment développe le goût des formules que nous connaissons à son père, il a également dit que le triple A de l'industrie française, c'était l'ambition, l'air et l'amour. Revenant sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que le manque de considération de l'industrie par la société française est sorti dans cette matinée comme étant quelque chose de plus important que ce que j'aurais cru personnellement. Alors, Anne Lauvergeon a également parlé d'un État stratège. Elle a rappelé que dans les années 60-70, il y avait eu 6 grandes stratégies. Il y avait l'aéronautique, il y avait le TGV, il y avait l'espace, il y avait le plan calcul et le nucléaire. Et que finalement, sur ces 6 stratégies, il y a eu un échec qui était le plan calcul. Et le télécom. Les télécoms qui, effectivement, dans les années 90, ont été un grand succès, puisqu'on a réussi à développer la norme GSM, etc. Donc, il ne fallait pas dire que les stratégies conduites par l'État ou conduites avec l'État étaient forcément vouées à l'échec, puisque sur ces 6 grandes stratégies, une seule avait échoué. Elle a également parlé de la tentation du protectionnisme, en disant que c'était une tentation à laquelle il fallait se refuser, tout en acceptant l'idée qu'il ne fallait pas être naïf et qu'il fallait équilibrer notre ouverture à l'extérieur, et qu'en particulier la règle européenne, qui consiste à dire qu'il doit y avoir exactement les mêmes règles d'ouverture vis-à-vis de l'extérieur que celles qui existent entre les États de l'Europe, qui malheureusement est inscrite dans le traité de Rome, sans que personne ait fait très attention au moment où le traité a été rédigé, que cette règle était peu adaptée à une négociation de type réciprocité, puisqu'elle n'est généralement pas respectée par les autres pays. Pour la Chine, c'est évident. Pour les États-Unis, il est clair que les États-Unis ont conservé des entreprises télécom parce qu'ils ont mis un veto au nom de la sécurité nationale sur la vente d'équipements de télécom par Huawei aux États-Unis. Je ne dis pas c'est ça qu'il faut faire, mais c'est en tout cas ce qui est mentionné. Nous avons eu un exposé très émotif de Xavier Fontanet. Il est vrai que son livre était « Et si on faisait confiance aux entrepreneurs ?» Dans le fond, son exposé, c'était « La France n'aime pas ses entreprises, n'aime pas ses entrepreneurs. » Il nous a dit que lui avait décidé de rester en France, mais qu'il avait le sentiment d'être le seul dans sa génération parmi les gens qui avaient réussi dans leur entreprise. Et il a mis en cause le concept de justice sociale en disant que ce qu'on appelle justice sociale dans un certain nombre de cas, c'est de la spoliation, c'est plus de la justice. Nous avons terminé par Jean-Louis Beffa. Alors Jean-Louis Beffa reprend le fait que la balance commerciale est le critère de notre compétitivité, de notre succès industriel. La balance commerciale est à la fois le symptôme et la cause du fait que nous ayons un déficit en emploi industriel. Et il a introduit, il était le seul à introduire une distinction à laquelle je suis personnellement sensible parce qu'elle correspond bien à la réalité que j'ai vécue moi dans l'entreprise, c'est qu'il y a en fait, même à l'intérieur de l'industrie, il y a deux secteurs. Il y a le secteur des industries locales ou régionales. Si vous parlez de Lafarge, le ciment, notre ciment est vendu à proximité des usines. Si vous parlez de Saint-Gobain, ils sont très souvent dans la même situation, les matériaux de construction sont vendus. Alors, il peut y avoir un petit peu d'échanges internationaux par bateau, etc., mais c'est relativement marginal. Donc, ce sont des entreprises qui ne sont pas soumises aux difficultés d'une compétitivité insuffisante d'un marché particulier. Quelle que soit la compétitivité française, enfin, sauf s'il y avait des écarts absolument énormes, le ciment destiné au marché français sera, pour 95%, fabriqué en France, encore qu'on peut imaginer que ça vienne à la frontière allemande ou à la frontière italienne, s'il y avait vraiment des écarts excessifs. Et il y a d'autres entreprises qui sont sur des logiques totalement globales, et que c'est là que se posent les questions de compétitivité. Et Jean-Louis Beffa, reprenant les thèmes de son livre « La France doit choisir », que vous avez peut-être lu, en tout cas qui est intéressant, considère que la France doit aussi changer de modèle. Donc il y a accord entre Jean-Louis Beffa et Arnaud de Montebourg sur l'idée qu'il faut changer de modèle. Et ce que Jean-Louis Beffa propose, c'est de prendre exemple sur 4 pays, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud, qui ont développé un modèle qui est sur une politique mercantiliste, une priorité aux producteurs par rapport aux consommateurs, un consensus des partenaires sociaux pour structurer le marché du travail, une synergie d'action entre État, entreprises, syndicats et une culture de l'innovation. Et que, bien entendu, ce modèle n'est pas du tout le modèle correspondant aux politiques inspirées, disons, de l'Atlantique ou de l'Europe, dans la mesure où Bruxelles met en œuvre des politiques inspirées de l'Atlantique. Et qu'il propose, comme axe de travail, rétablir le pacte social. Et il propose pour cela la représentation des syndicats dans les conseils d'administration des entreprises à l'allemande, la co-gestion à l'allemande, et un développement de l'actionnariat salarié. Donc lui propose de créer un choc du dialogue social à côté du choc de la compétitivité, une évolution de la gouvernance des entreprises pour protéger les entreprises françaises de la dictature de l'actionnaire, en favorisant tout ce qui est investissement de long terme, en protégeant les entreprises contre les OPA hostiles, pour passer de ce qu'il appelle le capitalisme libéral financier au capitalisme industriel et commercial. Et enfin, réaliser quelques programmes technologiques ambitieux avec du donnant-donnant entre l'État et les entreprises. Et en concluant que le nouveau monde n'est pas simplement un monde de concurrence entre les entreprises, mais que c'est un monde de concurrence entre États. Alors, il est clair que le point de vue de Jean-Louis Beffa est extrêmement minoritaire parmi les entreprises, même si un certain nombre des éléments, comme je vous l'ai dit à propos de ce que disaient Louis Gallois ou Christian Saint-Étienne, même si un certain nombre d'éléments sont partagés par les entreprises. Mais là, il va à l'extrême en disant... Donc, nous avions commencé avec Arnaud de Montebourg sur l'idée d'un changement de modèle. Nous avons terminé avec Jean-Louis Beffa sur la même idée d'un changement de modèle. Alors, ça peut peut-être fournir un sujet pour nos discussions. Merci.
Vous venez d'entendre les deux académiciens Yvon Gattaz et Bertrand Collomb. Vous pouvez lire l'intégralité du discours d'Yvon Gattaz sur Canal Académie.